Bienvenue sur Écoute Voyageuse. Je suis Corinne Delaunay et je vous emmène explorer la beauté des mondes, visibles et invisibles. Vous êtes prêts? Allez, on embarque! Ma nouvelle invitée est Marie-Pierre Dillen-Seger, une experte mondiale des arts consacrés chinois. Par art consacré chinois, j'entends le feng shui, le yi qing et tant d'autres encore. Voilà une année que j'ai croisé sa route. Elle m'a encouragée, ouvert l'horizon, fait connaître Mama Édition et touché du doigt la pensée chinoise. Sa terre aimée, américaine, est le territoire des Wampanoag à Cape Cod, sur la côte est des États-Unis. Quand je l'ai rencontrée la première fois, on en a discuté, micro éteint. C'était encore son territoire secret. Pour cette nouvelle émission, consacrée à son livre « Debout, la force de s'incarner », j'avais envie d'entrer dans un peu plus d'intimité avec elle. Elle va donc nous parler des circonstances qui l'ont poussée à écrire ce livre, de sa maison hautement symbolique aux États-Unis, de notre vitalité et par extension de la vitalité de la société, mais surtout elle va nous donner des astuces et la force par sa parole de nous relever, quoi qu'il arrive, de chaque défi que la vie nous donne. Car en fait, l'important, je la cite, c'est de s'incarner pour arriver au fil d'une vie à lisser les aspérités qui se nichent entre l'âme et le corps. Voici Marie-Pierre Dillen-Seger. Bonjour Marie-Pierre, je suis ravie de vous retrouver après un an. On s'était rencontrés il y a un an, à la fin du premier confinement en France. Vous revenez avec un nouveau livre qui s'appelle « Debout ». L'année dernière, on avait parlé de « Oser s'accomplir ». J'avais envie de vous recontacter pour que vous nous expliquiez ce qui s'était passé dans votre vie, parce que là, vous avez écrit ce livre donc « Debout » avec une introduction qui est beaucoup plus intime, où vous vous livrez. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé l'écriture de ce livre, parce que vous veniez de finir « Oser » et pourquoi vous avez enchaîné sur « Debout ».
D'abord, merci de m'accueillir, hein, de me retrouver. Et effectivement, on peut dire que j'ai appliqué à la lettre l'un des conseils de mon deuxième livre, hein, qui est d'oser, et là, pour le coup, d'oser dire et de sortir d'une posture d'accompagnant. Bon, je ne suis pas thérapeute, mais quand même, j'accompagne au quotidien dans mes consultations des personnes qui sont en chemin. Donc, c'est d'oser sortir d'une réserve qui m'est habituelle pour mettre des mots sur un moment qui a été terrible, en fait, de ma vie, où j'ai rencontré ce qu'on sait maintenant, je vais oser le dire, hein, être ce virus dont on a beaucoup parlé, mais à un moment donné, en janvier 2020, où peu de gens en avaient entendu parler, où ceux qui en avaient entendu parler pensaient que c'était quelque chose qui appartenait à la Chine, hein, qui était loin et qu'on ne verrait pas sur nos côtes. Donc moi, je vis sur la côte est des États-Unis, je suis proche de la communauté chinoise qui, avant le nouvel an chinois tous les ans, s'agite et se prépare et se rencontre. Et donc, on pourrait dire que j'ai presque eu la chance de rencontrer ce virus à un moment donné où les médecins n'avaient pas d'autre choix que de traiter de la manière dont ils savent faire. Mais il a fallu du temps pour que l'on comprenne la difficulté dans laquelle je me trouvais. Donc, pour faire clair, je me suis vue partir, mourir, et c'est au plus fort de la fièvre, à un moment donné où je n'avais pas d'autre choix que de m'abandonner à ce qui allait m'arriver, me voyant partir, que m'est venu cet impératif de continuer à écrire, alors que ça n'avait aucun sens, puisque je venais de finir, et on s'était parlé, mon ouvrage précédent, que je devais reprendre mes consultations, et j'ai accepté, c'est-à-dire que je pense que je me suis laissée porter par cette information qui m'est arrivée, et ce qu'on m'a dit, c'est on a cru que je partais, mais en fait, j'ai enfin réussi à dormir profondément, et l'histoire est ensuite longue, puisqu'il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre à peu près sur pied. Encore une fois, j'ai tenu ma promesse, c'est-à-dire que j'ai calé et j'ai accepté de reprendre l'écriture alors que rien d'autre ne m'y préparait. Alors, excusez-moi, ma réponse est un peu longue, mais je pense que là, il y a un écho avec un message essentiel dans mon travail qui est la capacité que nous avons toujours d'accepter la réalité telle qu'elle est, en nous faisant confiance. La barque, elle part à volo, on est dessus, on n'a pas le choix. Mais aussi, je suis rentrée vraiment dans ce, où j'étais dans ce moment-là, en confiance totale quant à ce que l'univers me réservait. Et j'avais conscience que ça pouvait être la mort.
Alors, c'est assez bouleversant de se retrouver confronté à la mort quand on ne s'y attend pas du tout. En plus, une maladie où voilà, vous n'étiez pas du tout préparé.
On ne pouvait pas la nommer. Enfin, on m'a dit que vous avez une pleurésie, les poumons sont atteints, bon, etc. Et oui, c'est terrifiant, mais on peut dire que dans des moments extrêmes, nous n'avons pas le temps de pontiférer. Le corps dont je parle dans mon dernier livre, qui est vraiment le vaisseau de notre âme, le corps prend les manettes, ou semble perdre les manettes, mais en même temps, ce qui nous reste d'humanité s'exprime à ce moment-là. Toute ma vie, j'ai fait beaucoup au fil, encore une fois, des consultations, puis 25 ans pour accompagner des personnes, et je crois que je mesurais la limite du partage d'un message de manière individuelle, consultation après consultation. Donc, je pense que venait vraiment le moment que je devais assumer d'avoir une parole, soit comme grâce à notre échange là, hein, verbal, mais aussi écrite, me permettant le partage d'outils que je ne souhaite absolument pas conserver pour moi. Tout ce que j'ai compris de la pensée chinoise, de la stratégie chinoise, de l'énergétique chinoise, mais aussi des phénomènes de synchronicité, tout ce qui a à voir avec la lecture des signes, pour moi, d'abord, ça fait partie du capital de l'humanité. J'ai quelques clés, j'ai passé ma vie à décoder. Je pense que ma juste place est ce partage. Donc, on pourrait dire après coup, mais j'ai mis du temps à me redresser, à m'en remettre debout. J'ai aussi perdu beaucoup, beaucoup de cheveux, qui est aussi un phénomène 3 mois après, quand le corps a été si atteint que ça. Je veux dire, il y a des parties non essentielles qui lâchent, donc des choses que pour moi, je ne pouvais pas expliquer. Et donc là, on peut dire qu'avec le recul, sans cet épisode qui m'a fait toucher mes limites, je n'aurais pas repris sitôt l'écriture et je n'aurais pas été dans ce troisième livre aussi près de messages essentiels qui nous permettent de gagner en autonomie et de nous réapproprier notre force vitale que si j'avais attendu le temps pour l'écrire. Je n'avais pas le temps pour écrire. En fait, il est venu quand même.
Et la force vitale, vous l'avez récupérée?
J'ai quand même entendu, je ne peux plus enchaîner les consultations comme avant parce que je me remets à tousser. Donc ça, je pense que ça frustre une partie de ma clientèle ou les personnes qui sont en attente de rendez-vous parce qu'il y a maintenant un frein physique à ma capacité d'accompagnement. Enfin, moi, j'ai toujours fait beaucoup de randonnée ou de natation ou de je suis quand même une grande partie de mes journées dehors, quel que soit le temps. Et je pense que c'est ce contact avec la nature et puis aussi ma terre aimée aux États-Unis sur la côte Est, qui est les arbres, puis les randonnées dans des coins qui existent encore où il n'y a pas de, j'ose le dire, de connexion portable, etc., dans des terres encore vierges qui certainement ont contribué au fait que je suis là aujourd'hui. Hein. Mais peut-être aussi les esprits de la forêt, on pourrait peut-être dire. À qui d'ailleurs je donne davantage la parole dans mon dernier livre. Je pense que là, j'ai osé dire notre vie se nourrit aussi de l'invisible. Et l'invisible, ce ne sont pas des choses farfelues que nous inventons ou qu'on voit dans des films de zombies.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous vivez justement? Parce qu'on en avait parlé en off lors de notre premier entretien. Donc, vous habitez sur les terres des Indiens Wampanoag. Ouais. Alors, vous en avez parlé dans un article dans la superbe revue native de ces ouais. Indiens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue cette connexion à cette terre? Comment vous l'avez découverte et ce qui vous lie?
Alors déjà, merci pour cette question, parce que finalement, toutes ces parts secrètes de ma vie finissent par sortir. Donc moi, je suis franco-américaine, française d'origine. Hein. Je vis aux États-Unis depuis, je crois que c'était 89, et puis bon, avec des allers-retours entre la côte est des États-Unis et la France. Je ne sais pas si c'est moi qui ai découvert cette terre ou si c'est elle qui m'a retrouvée. Mais on a chacun dans nos vies des moments clés, je pense, ou dans un lieu particulier ou dans un pays particulier, tout d'un coup, nous avons l'impression de reconnaître, hein, ou d'être vraiment chez nous, même si on ne connaît pas la langue. J'ai aussi eu ça vraiment en allant en Chine. Hein, alors, je peux reconnaître des idéogrammes chinois, mais je ne parle pas chinois, mais dans des lieux où j'ai pu me débrouiller seule, j'étais chez moi. Bon. Mais là, les Wampanoag, c'est la tribu Native American, qui est celle qui a accueilli les colons anglais lorsqu'ils sont venus sur la côte est. Alors, il y avait des gens qui sont venus avant, mais là, en 1620, hein, on connaît l'histoire du Mayflower, ce bateau qui a échoué sur les côtes de Cape Cod, au sud de Boston. Les colons n'auraient pas survécu sans l'aide des Wampanoag, qui leur ont appris la culture du maïs. C'est une terre qui est restée dans certaines de ses parties vierges, dans d'autres elle a été saccagée. Leurs terres sont maintenant, alors saccagées ça ne va pas plaire à certains, mais il y a maintenant des terrains de golf, des centres commerciaux, des lotissements dans tous les sens, qui coupent l'accès à la mer, alors qu'ils ont encore des droits de pêche. Donc pour moi, c'est mon contact, mon amour de la nature, qui m'a mis au contact avec une terre que j'ai eu l'impression de reconnaître. Et donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me rapprocher de leur histoire. Et c'est très émouvant, très émouvant, sauf que je ne fais pas partie de ce peuple. Donc, il y a des limites. Par exemple, dans l'article que vous citez, j'ai décrit l'effort colossal qui a été fait pour reparler la langue native qui était perdue depuis 150 ans. C'est très émouvant puisque maintenant les jeunes générations la reparlent, les enfants petits. Mais par exemple, ne faisant pas partie de la tribu, et de toute façon, même les adultes d'autres tribus n'ont pas accès à cet enseignement, parce que la tribu a tellement souffert, a tellement perdu. Et ça m'avait très émue quand on me l'a dit, c'est qu'on nous a volé nos mots. Nous souhaitons qu'ils soient d'abord retransmis aux plus jeunes, que ces plus jeunes deviennent adolescents et adultes, avant de permettre à des personnes extérieures à la tribu d'apprendre. Et donc moi, je m'intéresse beaucoup à la botanique, aux plantes médicinales, tout ce qui pousse et tout ce qui est comestible en forêt. Donc forcément, pour moi, il y a une richesse magnifique là, quoi, hein. Donc, par exemple, là, il y a une initiative louable qui a été de tenter de reconnecter les rivières à la mer. Parce que encore la pêche demeure quelque chose d'important pour ces tribus, et les poissons, les herring, hein, remontent, viennent frayer en eau douce pour pondre en eau douce, mais les accès entre les rivières d'eau douce et la mer ont été coupés. Donc là, il y a quand même un effort pour remettre ça. Et donc, en tant qu'étrangère à la tribu, ce à quoi on peut contribuer, c'est aller régulièrement compter les poissons qui passent. Donc, je vais compter les poissons qui passent. Comme ici, on peut compter les papillons ou les oiseaux migrateurs.
Et je crois que votre maison, elle est juste sur une terre.
Oui, elle est. Et d'ailleurs, la maison que tout le monde voulait détruire, mais que nous avons sauvée, elle date de 1842, ce qui n'est pas si lointain que ça pour des Européens, mais quand même, c'est ces maisons en bois. Et en fait, elle a été construite par un révérend qui était contre l'esclavage, dont j'ai retrouvé les sermons contre l'esclavage, bien sûr, et qui était marié avec une femme de sang Wampanoag. Donc, au début du 19e, c'était quand même pas... c'est quand même remarquable, on peut dire. Et il a écrit. Donc, pour moi, que mes livres soient écrits sur cette terre-là, dans une certaine forme de filiation... adoptée avec cette histoire me touche beaucoup. Et c'est aussi une maison dont on a découvert une cache secrète parce que, alors je ne sais pas si les Français, je pense quand même connaître, si on connaît l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, les esclaves noirs qui arrivaient à s'échapper du sud des États-Unis pour aller vers le Canada ou des terres où ils pouvaient être libres, devaient voyager de nuit. Parce que dans la journée, on les aurait reconnus, on les aurait arrêtés. Et donc, il y avait un certain nombre de maisons, amis, dont on se passait l'adresse, qui les hébergeaient. Et dans cette toute petite pièce qui a été découverte lors de la rénovation, c'est vraiment un cagibi, hein. Quand on y est, on entend tout ce qui se passe en dessous. Donc ça, pour moi, c'est très, très émouvant, puisque mon travail est au service de l'autonomie et de la liberté individuelle. Donc symboliquement, c'est...
Oui, ça, c'est fort.
C'est-à-dire que
de sauver des esclaves.
Je ne me sens jamais seule nulle part, finalement, puisque mon intérêt premier était quand même la lecture des lieux, ce que l'âme des lieux, ce que les lieux ont à nous dire. Mais en fait, à partir du moment où on ouvre les yeux, les signes sont multiples. Et les signes ne sont pas forcément, comme nous le croyons parfois, associés à de l'invisible dangereux. Alors là, en vous parlant, je suis en Alsace, là, à l'heure actuelle, pour des raisons aussi personnelles. Et il y a une cigogne qui vient de passer devant les fenêtres. C'est magnifique, un vol de cigogne. Je ne suis pas dans mes terres où il y a les balbuzards, hein, ces rapaces pour lesquels j'ai de l'affection, on va dire.
Et moi, j'ai des hirondelles qui nichent sur ma terrasse.
Oh my God. Alors dites bonjour. Hein,
ouais, elles sont magnifiques, on ne les entend pas, mais elles chantent pas mal. J'aimerais bien qu'on revienne parce que je trouve que c'est intéressant, la démarche des Wampanoag. En fait, c'est comme s'ils voulaient reprendre corps avec leurs racines. Et c'est un peu le parallèle avec votre livre « Debout » où oui. on prend corps avec soi.
Il y a un saut. Alors, c'est que « oser s'accomplir », se construisait dans des chapitres, hein, qui reprenaient chacun des postures en lien, pour ceux qui connaissent les arts martiaux, avec vraiment la posture physique. Cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en cohérence avec soi ? Alignement. Quels sont les actes que l'on peut poser pour nous rapprocher vraiment de nous-mêmes ? Présence. Il y avait un chapitre sur la perfection pour essayer de faire exploser les idées, la dictature de l'impératif de la perfection, etc. Donc, il y avait, on peut dire que mon livre précédent posait de manière musclée un chemin avec des étapes de progression vers soi. Et beaucoup d'exercices, hein, vous le rappelez, des exercices, des choses simples, des mises en situation et des exemples, parce que justement, je ne veux pas que parler au cerveau gauche. Avec oser, on passe un cap. À partir du moment où les choses précédentes sont faites, à partir du moment où nous comprenons que le corps est un allié, que quand il a mal, il nous parle, il nous donne des informations. C'est pas qu'il veut nous enquiquiner, c'est qu'il cherche à nous faire comprendre quelque chose. Alors, moins on l'écoute, plus ça s'enquiste, plus parfois c'est difficile de retrouver la santé. Mais néanmoins, une fois qu'est posé ce qui pour moi est une information essentielle, nous sommes des âmes ou des esprits incarnés temporairement dans un corps qui est notre vaisseau. Bon. Une fois que ça s'est posé, une fois que nous avons travaillé à la clarification de qui nous sommes, il y a la grande question du « pourquoi sommes-nous là ?» Ok, je comprends, je me rapproche de moi. Moi, par exemple, je ne suis pas très grande, donc il y a certains exercices qui me sont plus favorables, faciles que d'autres. Vu ma morphologie, je vais plus passer en souplesse qu'en force, par exemple. Donc, une fois que j'ai compris ça, et que je commence à accepter les limites de mon corps, pas simplement de ma raison et de mon esprit, les limites de mon corps, que je développe un certain amour de qui je suis, une certaine appreciation, on dirait en anglais, de qui je suis, la question, c'est effectivement, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie-ci ? Et on y va. Hein ? Donc, le livre, le Debout, qui est d'ailleurs la force de s'incarner, pose la joie et la responsabilité que nous avons de déployer l'ensemble de la machine qui nous constitue, d'être et de nourrir notre âme. Je pense que c'est ça aussi, de nourrir notre âme. Est-ce que c'est mes oreilles qui ont compris quand j'étais au pire de la fièvre un message qui me disait « il faut que t'écrives » ou est-ce que c'est mon âme qui avait réussi à suffisamment me déconnecter du monde des vivants pour me proposer une option me permettant de continuer à y rester dans ce monde de vivant? Je pense que je n'aurai jamais cette réponse. Mais ce qui compte, c'est que savons-nous au plus profond de nous? Alors, on pourrait dire, cerveau gauche, de nos désirs, de nos besoins, de nos envies. Donc là, je dirais, de ce que nous avons à déployer dans cette vie-ci. Et ce que nous avons à déployer dans cette vie-ci, donc déjà, debout, hein, le dernier livre est au service de ça, mais ce que nous avons à déployer dans cette vie-ci n'est pas forcément ce que l'éducation nous a dit, ce que la société nous propose, ce que les médias nous racontent, quelle que soit la qualité de la société, des médias et de l'éducation. Il n'y a pas de bataille, de croisade contre ça. Mais nous naissons avec des qualités, y compris d'âme. Je cite hein, l'un des medicine men, l'un des, comment on dit en français, le sorcier ou l'homme médecine hein, de la tribu des Wampanoags qui est décédé depuis plusieurs années, qui disait « Un jour, à la fin de notre vie, nous aurons à rendre des comptes, je suis émue, comment est-ce qu'il disait, sur les forces qui nous ont été données dans cette vie-ci, l'idée va être, qu'est-ce que tu en as fait ? Donc, ce n'est pas quel formatage tu as accepté, c'est qu'est-ce que tu as osé et réussi à déployer de ta capacité. Donc, par exemple, moi, j'ai une affinité naturelle avec les plantes. Bon. Elle me parle, des fois c'est même compliqué parce qu'en ville je cherche les pissenlits, je cherche ce qui peut encore exister dans les caniveaux, mais ça change là, c'est génial. Hein. On voit de plus en plus quand même dans certaines villes des herbes folles, etc. C'est magique. Et donc j'aurais pu l'ignorer, mais si je l'ignore, je me coupe pas des ailes, je m'enlève des plumes sur mes ailes. Donc il est impératif que dans mes journées, j'introduise ce qui connecte à ça. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça va vous servir dans un boulot? Vous travaillez à la défense, vous êtes le métro, etc. À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir respirer quelques minutes lorsque l'on croise l'arbre qui reste sur l'esplanade. Et ça, ce sont des capsules d'oxygène qui nous connectent déjà à des choix que nous pourrons faire ultérieurement ou pas, hein, parce que le libre arbitre, on l'a, pour nous rapprocher de situations qui sont nourricières de vie, pas simplement nourricières de comptes en banque. Parce qu'on se rend compte, quand on passe certains seuils, que nous pouvons vivre bien avec beaucoup moins que ce que l'on nous a appris. Hein. Alors, du coup, je pense que je suis atypique. Et même aux US, le fait que j'aille ramasser des pissenlits et que j'en fasse des salades, moi, je pense que je me taquinais dans un ouvrage précédent. Je pense que certains de mes voisins, ils me connaissent, mais se disent que quand même, elle ne peut pas aller s'acheter une salade. Vous voyez, mais on s'en fiche. Et ça, c'est vraiment l'apport pour moi de la pensée chinoise, ou en tout cas de l'énergétique chinoise. Nous naissons avec un capital de vitalité. Tout le monde. Tout le monde. Nous avons ensuite à le protéger, à l'optimiser. Et le protéger, ce n'est pas rester assis sur une chaise, hein, à avoir peur que le monde nous tombe sur le nez. Le protéger et à, au fur et à mesure des années, souvent ce sont les obstacles qui nous y amènent, à développer des stratégies d'économie de force et puis d'engrangement de forces nouvelles. Chaque fois que je vais en montagne, j'engrange des forces qui ne vont pas forcément tenir toute une semaine, mais qui néanmoins me permettent de relativiser certaines contraintes. Vous voyez ? Et donc, mon défi, mon propos, il est… Je pense que finalement, ça devient un contre-pied par rapport à des discours parfois généraux, mais est d'assumer la responsabilité que j'ai de partager des outils simples, efficace, gratuit, je veux dire, à part le prix du bouquin, le nombre d'exercices qu'il y a dans mon bouquin, c'est quand même, c'est aussi très utilisé, je crois, par des thérapeutes à l'heure actuelle ou des coachs, c'est de partager des outils qui nous permettent d'alimenter ce capital de vitalité. Et dans la pensée chinoise, la vie, d'alimenter le capital de vitalité, il y a un impact direct sur la santé. Si la santé est en forme, après on peut parler de prospérité et de boulot et du reste, mais c'est diable le nœud, c'est la vie. Donc, par rapport à nos auditeurs, chaque fois que nous faisons un choix, quel qu'il soit, d'acheter quelque chose dans une pâtisserie ou de faire un choix professionnel ou de bouger, de changer de lieu, ayons en tête le rapport choix-impact sur notre santé. On parle du rapport qualité-prix. Pour moi, c'est le rapport effort-retour sur investissement par rapport à la santé. Parce qu'au bout du compte, c'est la clé. C'est la clé. Et donc, la vie va régulièrement nous mettre face à des choix, souvent par le biais d'obstacles ou de maladies. Moi, clairement, je n'écoutais pas ma voix qui me disait « limite les consultations, trouve un autre moyen de communiquer avec un public plus large ». À un moment donné où le taux de souffrance dans la société est quand même important. Et c'était même avant l'arrivée de la pandémie. Donc, nous avons régulièrement des coups de rappel, mais aussi des choix qui s'accumulent. Enfin, les décisions que nous prenons s'accumulent. Soit ça va dans le sens d'une vitalité slash longévité renforcée, puis aussi qualité de vie, soit finalement, comme je disais tout à l'heure, ça nous enlève des plumes sur les ailes, mais parfois ça nous coupe même les ailes ou ça nous enlève les ailes.
On en avait parlé après le premier confinement en France, d'oser, où c'était devenu nécessaire que chacun s'accomplisse complètement. Et là, c'était d'urgence, une urgence vraiment vitale. Là, ça fait un an. Debout, en fait, ça nous montre aussi le chemin par rapport à l'énergie vitale, comme vous dites, parce que oser, c'était vraiment s'exprimer. Et puis là, debout, c'est énergie vitale. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme bilan? Comment vous voyez, pas de bilan, mais plutôt comment vous apercevez le monde, là, comment il se dessine à l'heure actuelle?
Alors, d'abord, pour moi, la vitalité d'une société et de l'humanité, finalement, hein, de l'espèce humaine, elle est le cumul de nos vitalités individuelles. Donc, je pense que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Et donc, au moment de la publication à l'automne 2019 d'Oser s'accomplir, où on parlait quand même des clés pour être soi, je parlais d'urgence, je parlais déjà de la souffrance ambiante, je parlais déjà de l'absence de repères, je parlais de la difficulté de tous les accompagnants au quotidien de leur consultation, à remettre des gens debout, puis ensuite les gens repartent dans des situations mortifères d'une certaine manière. Mais j'avais conscience de ne pas être suffisamment entendue au niveau de la société, on peut dire, parce que le monde allait soi-disant bien. Donc, un grand nombre d'entre nous savaient que non, il ne va pas bien. Regardez la perte de la biodiversité, etc. Les exemples, nos auditeurs les ont. Mais tant qu'on pouvait encore prendre un avion pour passer le week-end à tel endroit rapidement et ceci, et puis encore faire cela, etc., tant que nous étions dans la cavalcade, sans dégâts pour nous, il y avait des dégâts pour la planète, des dégâts pour les animaux, des dégâts pour la pollution, la qualité de l'air. Mais tant que nous n'étions pas freinés, moi, je finissais par me rendre compte, avant d'être malade, je me disais, mais bon, ça ne va pas le faire. Hein? Parce que de cette manière, il faut une masse, une certaine critical mass, il faut une masse critique de personnes qui passent en mode un petit peu plus vertueux pour entraîner les choses. Et donc, l'arrivée de la pandémie, qui a d'abord été pour moi une histoire très personnelle de vie ou de mort, a aussi été... Enfin, je l'ai aussi vu comme, mais c'est quand même incroyable, il va nous falloir ça pour qu'on réajuste nos postures. Et d'aujourd'hui, votre question, elle a à voir avec le futur. Alors, je fais attention à ce que je vais dire, je fais toujours attention à ce que je dis, mais quand même, je suis aussi très directe. Je me commence à me poser la question suivante. Que n'allons-nous pas avoir appris de l'année et demie qui vient de se passer? Parce que je vois se profiler un retour effréné à l'identique d'avant, alors qu'au niveau de notre société, de l'humanité, aucune catastrophe n'est en vain. Les catastrophes, les deuils, les obstacles ont toujours une fonction nous permettant au minimum d'ouvrir les yeux, de voir quelque chose et de mieux nous préparer pour la suite. Donc, si là, cet été, en France et ailleurs, quand tout va être réouvert et que nous continuons à mettre nos œufs que dans un seul panier, pour ne pas nommer une politique vaccinale, désolé, qui a tout son qui a l'intérêt de ça, mais tout paysan sait qu'on ne peut pas, toute personne sensée, que tout problème a des causes multiples et qu'une seule solution n'est pas viable sur le long terme. Donc je suis confiante par nature, je suis très présente pour accompagner aussi, très souvent gratuitement, dans des conférences, dans des podcasts, dans des vidéos sur YouTube, avec mes livres, pour accompagner ce mouvement de transformation. Mais sans vous, sans nos auditeurs, ça ne va pas le faire. Donc, je garde ma confiance. J'ai une confiance immodérée dans la capacité humaine de retomber sur ses pieds. Mais la question que j'ai notée, enfin, que je vous ai partagée, je l'ai. Hein, parce qu'il aura fallu la grippe aviaire pour qu'on apprenne à se laver les mains à l'époque, je me souviens, à lavez-vous les mains. Là, il aura fallu la pandémie pour que nous apprenions à aérer nos espaces. Bon, j'espère que ça va rester ça, par exemple. Et puis la peur, pardon. La peur est quand même très prégnante. Je pense que la pandémie a réveillé des peurs, ce qui pour moi est quelque part instinctivement une bonne chose, parce qu'un animal qui n'a jamais peur, il se fait manger. Mais de quelle peur s'agit-il? Moi, ce que j'ai parfois peur, c'est que nous ne nous écoutions pas suffisamment, que nous écoutions nos peurs ou des peurs fabriquées qui nous enlève notre autonomie décisionnelle et de clarification, etc., et de libre arbitre. Tout mon travail est au service du libre arbitre. Donc, où est-ce qu'on va sur le libre arbitre dans les années qui viennent? Là, on en reparlera peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse.
Vous avez un autre livre en tête?
Oui, bien sûr. Alors là, c'est le problème, là, maintenant. Depuis que c'est... je dois le dire, hein, depuis que j'ai calé sur le sujet, c'est-à-dire que j'accepte ma capacité d'écriture comme étant un outil au service d'une parole qui est, je pense, un peu utile, ou utile à minima. Il n'y a plus le bouchon là-dessus. Donc, j'ai sur ma table, là, des notes, le début de la suite, puisque je ne suis plus raisonnable, hein, quant à la limite de cette force-là.
C'est super pour nous, pour les lecteurs. Est-ce que pour vous, il faut quand même commencer par oser et continuer debout? Il faut le faire à l'instinct, en fait.
Il y avait aussi le premier, hein, qui était qui s'appelait La Voix du Feng Shui, hein, qui posait déjà les jalons, puisque le sous-titre était Apprivoiser l'espace, chevaucher le temps, trouver sa place. Donc, pour moi, la question de la place, elle est en filigrane sur les trois ouvrages. J'ai tendance à penser que le bon livre trouvera la bonne personne. C'est sûr que si l'on ne connaît rien de la pensée chinoise, il est plus facile de démarrer par debout, par le dernier, là, qui a vraiment été écrit pour parler à c'est vraiment pas, mes ouvrages ne sont vraiment pas des ouvrages de spécialistes. Le premier l'est un petit peu plus. Et ils sont écrits comme des boîtes à outils, que ce soit Oser s'accomplir et Debout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se lire du début jusqu'à la fin. Dans une boîte à outils, on va soit ouvrir au hasard, puis voir l'outil qu'on cherche, on le trouve sous ses yeux, on prend celui-là et pas un autre. Il y a un certain nombre de planches, de tableaux qui nous permettent d'aller du symptôme au chapitre ou dans le dernier, je parle de 5 épreuves fondamentales. L'épreuve de la forêt, quand on est perdu, on ne voit pas clair. L'épreuve de la tombe, on se sent enseveli. Vous savez, il y a les papiers sur le bureau, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Puis on s'en sort quand même. Et puis, etc., il y a 5 épreuves, il y a des parades. il y a la parade, par exemple, du laisser couler comme un canard. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un à qui vous auriez envie de répondre, ben non, on est comme un canard sous la pluie, on laisse couler, économiser votre énergie, laisser passer, vous aurez bien le temps de répondre dans 10 ans ou dans 3 mois ou de passer à autre chose. Donc, il y a un certain nombre de clés, d'outils qui permettent de rentrer dans l'ouvrage. Moi, ce que j'entends là, on me dit, souvent, le dernier, par exemple, il peut se lire vite, mais on y revient. Ou ce sont des livres de chevet. Donc ça me fait plaisir parce que ils sont vraiment des boîtes à outils.
C'est vrai, ouais, c'est vrai, tout à fait. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai ouvert au hasard et c'était sur patienter. Et c'était exactement ce qui coulait.
Je pense que de quoi je me dis, puis j'en parle un petit peu au début, j'ai presque l'impression qu'il n'a pas été écrit seul, qu'il n'était pas simplement mes chats à côté de moi qui m'aidaient à écrire, que je considère comme des co-auteurs, mais ils ont une connexion avec le subtil qui les rend utiles là où on est aujourd'hui. Pour moi, vraiment, il n'y a pas ceux qui sont nés vraiment doués, voilà, et puis ceux qui vont ensuite toute leur vie dépendre des experts qui vont leur expliquer comment sortir du bourbier. On a besoin d'aide ponctuelle, sans aucun doute. Mais nous avons tellement de force sous le moteur, sous le capot, comme on disait autrefois. Alors, moi, j'invite à mettre le nez dedans. Et l'un des conseils, j'en profite, là, vous ne m'interrompez pas, l'un des conseils, c'est que j'ai souvent constaté que quand mes consultations, j'accompagne des Occidentaux, l'Occidental est impatient. Et aussi l'Occidental, il attend longtemps, souvent, avant de consulter. Donc, c'est enquisté. Il a attendu longtemps, on me dit « Ah ben, ça fait 3 ans que j'avais votre numéro de téléphone, mais oui, mais quand même, etc. » Donc, et là, je veux un résultat tout de suite. Donc, l'approche traditionnelle chinoise ou l'approche plus réaliste, elle est de compter sur le temps. C'est pour ça que certains exercices, ou beaucoup d'exercices, je dis « Vous les faites à la même heure, tous les jours, si possible au même endroit. » Ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Mais répétez-le parce que c'est vraiment la politique des petits pas. Hein. C'est répéter que finalement le corps et l'âme apprennent à se redresser, c'est-à-dire à reprendre des postures vertueuses par rapport à qui nous sommes. Donc, ce n'est pas simplement un ouvrage ou des ouvrages à lire, hein. Ce sont des ouvrages à pratiquer. Et on répète. Et puis surtout, on ne se désespère pas. Moi, je dirais, moi, j'ai besoin de vivre, en tout cas, j'ai identifié le besoin de vivre au bord de l'eau. J'ai quand même mis, enfin, je n'arrive même plus à compter, mais je ne sais plus si ce n'est pas 39 ans pour vivre au bord de la mer. Et entre-temps, je faisais des choix de lieux de vie qui au moins avaient une baignoire pour prendre des bains, avec des sels de bain marins. Donc, à me dire, mais ça ne va pas changer une vie. Bah, sur le long terme, ça a changé ma vie.
Vous êtes approché de votre rêve au fur et à mesure. Ouais.
Je suis approché du rêve, mais c'est aussi que je me mets, c'est comme en musique, je me mets sur le son, sur la tonalité vibratoire qui correspond à une fibre qui me met en joie. Et ça donne à la personne un petit peu plus de force. Un petit peu plus de force chaque jour. C'est comme quand on est en randonnée. C'est un pas, et puis encore un autre pas, puis encore un autre pas, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a déjà fait 5 km ou 10 km. Et des fois, on a mal aux jambes, oui, parce que, effectivement, se rapprocher de soi, c'est un petit peu un effort, hein. Mais ça vaut le coup.
Oui, c'est important aussi dans vos vidéos que vous faites tous les mois, vous parlez toujours du timing divin, de cette ponctualité, du temps, laisser le temps au temps, enfin, vous le répétez sans cesse, parce que…
Oui, ouais, je radote, on pourrait même dire. Hein. Non, c'est-à-dire que
c'est important.
mais merci de le dire, hein, mais parce que on ne nous apprend pas que le temps, c'est de l'énergie. Or, ça, c'est un apport de la pensée classique chinoise qui voit le temps comme des cycles. Il y a des cycles de 60 ans, par exemple. Hein, donc, c'est ce qui fait… que l'anniversaire des 60 ans est important. On considère que c'est l'année de la sagesse parce qu'à partir de 61 ans, on va retrouver des énergies chaque année qu'on connaît déjà. Donc, on va dire, bon, ben, alors ça veut dire qu'il va me j'ai fait une pneumonie à 3 ans, donc à 63 ans, je vais faire une pneumonie. Ben non, puisque vous avez déjà l'expérience, c'est comme si vous êtes tombé sur un chemin. Bon, ben maintenant, vous savez qu'il y a un trou là, donc on va se positionner autrement. Et puis, de toute façon, puisque vous m'avez écouté, vous avez travaillé votre système immunitaire, donc vous ne retombez pas dans l'ornière. Donc là, il y a, donc ce que je fais moi, c'est des toutes petites vidéos, 4 minutes minimum, là, celle du mois de juin, elle fait 7 minutes, je crois, qui vous donne des mots-clés décrivant l'énergie du mois. Ce n'est pas ce qui va vous arriver, c'est la qualité du vent. C'est ce que j'appelle la météo temporelle. Et ça, j'ai commencé à le faire pendant le confinement aussi l'an dernier, parce qu'avant, je ne faisais que depuis plus de 20 ans que comment dire, la description de l'énergie annuelle en janvier, hein, ces conférences-là, parce que je me rendais compte que certains mois, les personnes, chacun est unique, mais arrivaient aussi avec quelque chose de commun. C'est-à-dire que certains mois, je voyais beaucoup en consultation de la culpabilisation parce que ça n'avance pas. Donc moi, je pouvais dire, oui, mais on est justement dans un mois plan-plan. Donc autant le savoir à l'avance, plutôt que s'approprier une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Donc c'est ça l'idée. Donc on se cale. Alors après, si la météo vous dit il va pleuvoir, bon ben vous avez encore votre liberté de sortir, de pas sortir, de sortir avec un parapluie ou de sortir sans parapluie. Là, je peux rien faire.
Oui, vous n'avez pas tout pouvoir, mais c'est vrai que c'est intéressant à chaque fois de les écouter parce que effectivement, on se dit, bon, bah là, patience, le mois prochain, ça ira mieux, on pourra
Oui,
agir
oui.
et être dans l'action.
Donc vous les écoutez.
Bien sûr, bah bien sûr, si j'en parle. En plus, c'est vrai, l'avantage, c'est que ça ne dure pas longtemps et c'est très intéressant, en fait, voilà, pour se dire non, là, ce n'est pas le bon moment. Et comme vous dites, ça évite de porter cette culpabilité où parfois on se dit, ah, mais c'est pas possible, j'ai pas d'énergie, je suis paresseuse, etc. Mais en fait, c'est l'ambiance générale qui veut ça.
Oui,
C'est.
alors que là, par exemple, on est de savoir qu'on est de manière globale dans une année que j'ai appelée en début d'année constructive, au service d'une qualité, au service de la construction de la suite. C'est pas la reconstruction. C'est pour ça que par moments j'ai un peu peur qu'on retombe dans nos ornières, nos mauvaises habitudes d'avant. Mais de savoir que on ne peut pas être dans une année au service de la qualité sans que ça prenne un peu de temps, c'est bon de le savoir. Parce que là, le nombre de personnes qui s'inquiètent de ce que l'économie, de ce que ça n'a pas encore repris, bon ben, c'est bon de savoir que ça vient. C'est vrai qu'on n'a pas une énergie galopante à ce qui serait associé à l'élément chinois du bois, qui a à voir avec la croissance. Mais ça vient. Donc là, on travaille les racines. On met en place. On accumule de l'énergie. Parce que dans les années qui suivent, on aura moins le temps de se reposer puisque ça repart. J'espère dans le bon sens.
On va vous écouter. J'aimerais bien que pour finir, que vous m'expliquiez ce que c'est que cet idéogramme, on appelle ça un
Le caractère,
idéogramme,
oui,
le
le graphe.
caractère chinois justement de debout.
Alors, là, il y a un lien aussi avec le premier livre. Donc, il y a cet idéogramme rouge hein, qui est sur la couverture du dernier livre. Au départ, je le voulais sans la barre horizontale. Parce qu'en fait, si on enlève la barre horizontale, vous avez l'idéogramme qui signifie l'homme, l'humain. Dans l'idéogramme chinois, si vous regardez bien, il n'y a pas vraiment de tête. On voit une forme de profil qui avance à grands pas, puisque dans ce mode de pensée, la vie est du côté du mouvement. C'est pour ça que j'ai des exercices où on bouge, où on sort du fauteuil, etc. On fait même simplement quelques petits pas. Donc c'est ce que je voulais au départ. Et en fait, l'idéogramme qui y est, enfin, la pensée a bougé, quand vous rajoutez la barre horizontale, qui donne un sens de directionnel, hein, il signifie grand. Donc là, pour moi, c'est à la fois le message sous-jacent qui est mettons-nous en mouvement, redressons-nous, même si c'est difficile au début et qu'on croit que tout est fini, qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Chaque jour, mesurons les petits pas que nous pouvons faire. Et c'est grâce à ces petits pas que nous allons vers le grand et vers le puissant. Enfin, je pense que cette image, sur la couverture blanche. Il fait aussi écho à une citation que j'avais mise dans un de mes livres, qui est un proverbe chinois qui dit « Quand nous sommes dans la bonne direction, il n'y a plus qu'à avancer ». C'est presque là où le conte de fées s'arrête, puisque le nœud est dénoué, mais là, il n'y a plus qu'à avancer. Mais d'avancer, c'est la vie. Hein, donc, je crois que c'est un message que j'espérais aussi visuel pour que nous nous laissions toucher, pas simplement par notre cerveau gauche.
Bah, c'est très visuel parce qu'on a l'impression que c'est un homme tout joyeux.
Oui.
Qui s'élance vers la vie en confiance, en toute liberté. Ouais. Voilà, c'est ça ce que ça.
Grand enjambé, quoi.
Oui, à grand enjambé.
Et surtout, il n'y a pas de tête, puisque oui. Nous, nos pictogrammes ont une tête, puisque nous, nous existons parce que nous pensons. Et c'est très bien de penser. Dieu merci, nous pensons. Mais tout mon travail, c'est comment faire pour que nous sortions nos pieds de notre tête, où nous gambergeons, pour les remettre là où ils sont, même pas les mettre, pour les voir là où ils sont, et voir ce que chaque jour nous pouvons bouger dans notre quotidien. Et parfois, il y a cet exercice du non, c'est simplement de dire non à une chose dont on sait qu'elle ne nous fait pas du bien. C'est pas facile de dire non. Mais c'est surtout difficile la première fois. La deuxième, ça l'est moins.
Donc ça, c'est le petit exercice conseil. Dire non une fois par jour. Enfin,
on va dire pendant une semaine. Après, oui. Vous voyez l'état de la situation et puis vous enchaînez par dire oui au moins une fois par jour à quelque chose qui vous fait vraiment du bien, même si ça ne dure que 3 minutes. 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, etc. Au bout du monde, ça fait beaucoup de choses, lapsus.
Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre, en tout cas, pour cet échange. Toujours plein de vie et puis plein de bons conseils. Donc, on se voit pour le troisième livre, enfin le quatrième.
Le quatrième, et puis même à une occasion qui serait possible, hein, une fois. Moi, je veux faire juste un clin d'œil sur le nom de votre podcast qui m'a vraiment tapé dans l'œil parce qu'on y parle du voyage et du mouvement. Et quand on n'est pas encore là où on voudrait être, il est important de savoir qu'on peut déjà y être en se rapprochant par de tout petits détails de l'univers vers lequel on va. Hein, si un jardin vous manque, tel parfum floral peut-être déjà vous accompagner le temps que vous y soyez. Donc, super titre.
Merci, je suis touchée. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci pour votre écoute. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. À très vite sur Écoute Voyageuse.